Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Ben regardez, là, ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Salut Alice à la régie. J'ai pas Bruno, j'ai la chance d'avoir Alice aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, j'accueille un invité que vous connaissez, puisque c'est la troisième fois qu'il vient au micro de Terrain Vague, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Nicolas Xavier, bonjour.
Bonjour Laura.
Alors aujourd'hui, après avoir parlé de tas de choses avec toi, de l'histoire un petit peu du graffiti à Montpellier, de l'essor de l'art urbain, de ta carrière de galeriste, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le sujet du marché de l'art. Alors c'est un vaste sujet, en demi-heure il va falloir être concis.
Allez.
Et parler des salons d'art que tu as l'habitude de fréquenter et de fréquenter en termes en visiteur mais aussi en professionnel, surtout totalement, en professionnel. Ouais. Voilà, on va parler un petit peu de ce sujet-là et j'aimerais bien avoir un peu ton avis forcément de professionnel mais aussi ton avis de public sur la chose. Ça m'intéresse aussi ton regard de galeriste mais d'amateur d'art.
Très bien.
Ça fait 10 ans que tu as ta galerie. Est-ce que ça fait 10 ans que tu fais des salons ?
Non, ça fait 10 ans que j'ai Nicolas Xavier, ouais. Ça fait 20 ans que je fais ce métier.
Ouais.
Et j'avais commencé à faire des salons avec ma précédente galerie d'art.
Ah oui, d'accord.
Avec la galerie Montana.
Ok, oui, donc ça fait un moment en fait que tu...
Ouais, ça fait quelques années, ouais, ouais. Déjà.
Et alors du coup, quel est... Alors, on va parler par exemple du salon de Montpellier qui existe, j'ai vu sur leur site depuis 2017, donc en fait ça fait plus longtemps que ce que je pensais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça faisait que 3-4 ans qu'il existait. Toi en tant que galeriste, quel est l'intérêt d'être dans des salons comme ça, bon, si ce n'est de se faire connaître, mais quel est l'intérêt vraiment majeur et qu'est-ce que toi tu retiens des expériences passées dans ces lieux-là ?
Dans les salons, une galerie d'art, je dis bien une galerie d'art et non pas un marchand d'art,
ouais.
On a des fonctionnements, des dynamiques différents et des envies différentes quand on va dans des salons. Mais
oui.
Pour les galeries d'art, on va chercher, je compte, je crois, trois trucs différents, à savoir trouver un nouveau public, donc
ouais.
Des nouveaux acquéreurs.
Mm-hmm.
Comme tu l'as dit, être bien évidemment vu avec un plus large public,
tout ça peut
être beaucoup plus important, parce que dans un salon d'art, en quelques jours, on véhicule, enfin en tout cas, il y vient des milliers de personnes.
Ouais.
Et un troisième point, mais là, c'est plus côté galerie, où quand on porte des jeunes artistes avec un travail de fond qui est mené,
mm-hmm.
on les accompagne sur des salons pour aussi les faire découvrir eux, personnellement. Donc il y a trois points, c'est faire découvrir la galerie, découvrir les artistes, mais aussi aller chercher des nouveaux acquéreurs.
Et du coup, ça m'amène une autre question. comment tu choisis les artistes que tu vas exposer? Par exemple, je sais pas moi, à l'Urban Art Fair de Paris, parce que parfois tu exposes des artistes installés déjà, mais des fois tu fais le choix d'exposer des plus jeunes artistes. C'est stratégique,
ouais.
C'est comment?
Oui, il y a de la stratégie dedans. Bon, au départ, on maîtrise pas ce truc-là.
Ah ouais.
C'est, on y va.
Au feeling, quoi.
Ouais, au feeling. C'est nous avons déjà des coups de cœur sur des artistes,
ouais.
Donc nous considérons que si en galerie, le fait de les représenter en galerie, ça a eu son succès.
Mm-hmm.
Nous pensons qu'en salon, ça aura aussi ce succès-là. Des fois, on se trompe. Mais les artistes sont choisis. C'est assez fin. Enfin, en tout cas, pour ma part, je l'ai choisi par... Il y a une part humaine, loyauté,
mm-hmm.
accompagnement. Mais il y a aussi une partie très calculée, très stratégique.
Bien évidemment.
Où on va prendre des artistes parce qu'on sait pertinemment que... au fond de nous, on le dit pas, ça reste secret parce que c'est quand même, comment dire, ça pourrait paraître vantard, de dire ouais, moi j'arrive avec un artiste, ça va cartonner. Ouais. Non, on sait pas ça. Mais secrètement, nous avons des résultats. Donc nous pensons que nous allons aussi faire des résultats.
Ouais.
Et à ce moment-là, oui, c'est des risques. Moi, j'appelle ça des risques mesurés.
Ouais, ouais. Quand même, quand tu sais le public que tu as à ta galerie, donc tu sais qui marche et qui, ouais. voilà, qui va ouais. vraiment attirer, etc. Quand tu te déplaces à Paris avec le même artiste, en fait, quand même, tu prends un risque dans le sens où si c'est la première fois que tu le présentes dans un salon, tu te dis, j'espère qu'il va être aussi bien accueilli que chez moi. Ouais. Mais
Je prends le cas de Mathieu Lucas.
Ouais.
Très rapidement, on a trouvé son public et il y avait une vraie demande autour de son art.
Mm-hmm.
Et au bout d'un certain temps, après avoir fait deux groupes shows, je crois, et sa première exposition personnelle à la galerie, nous avons décidé de faire un salon ensemble parisien. Et c'est vrai qu'on y va, on n'y va pas en roulant des mécaniques. Hein. Mm. On ne sait pas trop. Il y a quand même un petit peu d'argent qui est posé sur la table pour ce projet. Et la première fois, c'est sûr que on y va avec beaucoup d'humilité et on se démène pour que ça se passe au mieux. Bon, on a eu des super résultats, donc on était content de notre coup. Mm-mm. Quelque part. C'était il y a cette excitation de penser savoir des choses
mm-hmm.
tout en ne les maîtrisant pas.
Et ouais.
Et c'est chouette parce que voilà, on entremêle des petites choses de l'émotion comme ça qui est super agréable.
Ça te permet de te bousculer un peu, tu te reposes pas sur tes acquis.
Exactement.
Parce que, comme tu disais, c'est un autre public.
Ouais.
Parce qu'en plus, bon, j'imagine que dans les salons, il y a les fidèles, il y a les gens qui viennent tous les ans, etc.
Ouais.
Mais il y a les gens qui sont de passage ou ceux qui se disent, je vais y aller, on verra bien ou quoi. Donc, tu te frottes toujours à un nouveau public. Donc, tu as toujours cette petite appréhension de savoir comment ça va se passer.
Mais oui, mais puis on peut se tromper. Je vais encore un brin m'étendre. Mais le salon, c'est plus technique et complexe qu'on peut s'imaginer. Parce que c'est pareil. C'est comme un artiste sollicite une galerie d'art. Je lui conseillerais toujours de se renseigner sur la galerie avant de la solliciter. Pour connaître son identité. Pour les salons, c'est pareil. Il faut savoir qu'est-ce qu'on sollicite, parce qu'il y a toujours des coûts financiers au départ, et il ne faut pas se tromper de salon. Et ça aussi, c'est un paramètre qu'on a tendance à oublier. Et je dis ça parce que les salons, c'est une multitude d'entités.
Mm-hmm.
Et par exemple, celui-là de Montpellier, Art Montpellier, il y a quand même énormément de marchands d'art.
Ouais.
Donc on se mélange tous les uns aux autres. Il n'y a aucun souci avec les marchands d'art. Ce n'est pas du tout le problème. C'est que le fait qu'il y ait certaines entités, des galeries et des marchands, ça attire un public différent aussi.
Eh oui.
Et voilà, c'est assez, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est assez technique, donc il faut savoir où on met les pieds.
C'est vrai que sur le papier, comme ça, au final, tu viens acheter une œuvre, que ce soit un marchand ou une galerie, l'œuvre, elle sera là au même prix, j'ai envie de dire.
Oui.
Qu'est-ce que ça change, selon toi, de s'adresser à une galerie ou un marchand d'art? Est-ce qu'il y a une relation qui n'est pas la même? Enfin, est-ce que toi, en tant que galeriste, justement, tu accompagnes tes artistes, donc tu les connais bien, donc pardon, tu vas pouvoir parler d'eux et t'étendre un peu plus? Est-ce que le marchand d'art, du coup, comme il a plus d'œuvres de plus d'artistes, est-ce qu'il y a moins peut-être ce...
Pour ma part, je pense que beaucoup de galeries le font aussi, je vais plaider ma paroisse. Nous, on vient avec un vrai projet.
Mmh.
On prend toujours un an. Quand on décide de faire un salon avec un artiste, on parle d'un solo show, on le réfléchit comme une expo à la galerie.
Ouais.
Donc, déjà, on arrive avec un vrai projet. On n'arrive pas avec une collection d'œuvres.
Tout à fait.
On arrive avec une proposition, un projet, une scénographie.
Une scénographie, oui.
Et on nous le verbalise.
Mmh.
Moi, je l'ai déjà entendu de nombreuses fois nous féliciter de la proposition qu'on leur avait faite. La cohérence qu'on leur propose, et c'est chouette parce qu'en fait on se rend compte que le public est sensible aussi à ces détails.
Évidemment.
La différence avec un marchand d'art, c'est qu'un marchand d'art, je pense que lui, sa motivation première, après il faudrait que je passe un peu de temps avec les marchands d'art et que je leur pose moi-même des questions, je pense qu'ils viennent chercher exclusivement du nouveau client.
D'accord.
Mais en novembre 2024, le dernier salon qu'on a fait pour Art Montpellier, j'avais un marchand d'art en face de moi.
Oui. je me rappelle.
On n'avait absolument pas du tout la même ligne de travail
non,
et de proposition artistique.
Ouais, ouais.
L'un n'était pas meilleur que l'autre, c'était pas, c'est pas le sujet, mais c'est que moi, je la voyais forte, la différence entre nous deux.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et à ce moment-là, je sais qu'on touche pas le même public.
Mm.
C'est une évidence. Donc les salons ont cette vertu de pouvoir nous proposer un éventail de publics et de personnes diversifiées. Mais j'y mets toujours un brin de questionnement ou de doute sur
ouais,
ça
ouais.
parce que à creuser.
Ouais. Ouais, et puis j'imagine que la façon de travailler n'est pas la même de toute façon.
Non,
donc, et puis ouais, effectivement, ça demanderait de s'y intéresser un peu plus.
Oui.
Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur le choix des salons à faire.
Oui.
Comment toi, tu les choisis ? Parce que tu n'en fais pas milliards. J'ai l'impression que tu fais
non.
en fait l'Urban Art Fair de Paris
oui.
et Art Montpellier, mais tu ne les fais pas tous les ans ?
Non, je saute des éditions et j'ai pris cette décision il y a quelques années. Déjà, je parle avec les artistes de la galerie. J'aime beaucoup et j'aime énormément changer avec eux. Avoir, même si je suis le gars qui va prendre la décision à la fin, parce
ouais,
que
ouais.
c'est moi qui va prendre les premiers risques, mais j'ai toujours besoin d'échanger avec eux, avoir leur ressenti. Et quand je leur ai fait savoir que je souhaitais sauter des éditions, donc faire un salon
sur deux,
que ce soit pour Art Montpellier ou le Art Fair à Paris, au Carreau du Temple, c'est pour tout simplement, j'avais tendance à entendre régulièrement, pas tout le monde, mais je l'ai quand même énormément entendu, que c'était redondant. Il y avait une répétition. Et c'est vrai, je le pense. Et là, puisque tout au début, tu me parlais autant du professionnel que je peux être
et du
spectateur, en tout cas du public que je peux être aussi. Je l'ai moi-même ressenti.
Ouais, ouais.
Et quand je l'entends, une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois, je prends cette information en considération.
Ouais.
Et je m'y suis retrouvé dedans. Je me suis dit, en tout cas moi, à mon niveau, je me suis dit tout simplement qu'il serait peut-être bien de ne pas le faire tous les ans. Et puis, pour une autre raison... C'est, je parlais de Mathieu Lucas, c'était un énorme succès. Mais on ne peut pas venir avec un Mathieu Lucas tous les ans,
non.
déjà dans un premier temps.
Ouais,
et on ne trouve
sûr.
Pas des Mathieu Lucas tous les jours non plus.
Mm.
Donc c'est tous ces détails qui, à un moment donné, je les ai rassemblés. Je me suis dit, ben, voilà, c'est une décision que je vais prendre. Après, c'est une décision avec une certaine contrainte. Parce que quand on ne fait pas de salon, ben, on n'a pas... Moi, j'ai fait 2 très beaux salons en 2024 où j'ai fait des résultats de vente et j'étais plutôt satisfait des résultats.
Mm-hmm.
Ou en tout cas, on s'y retrouve.
Ouais, ouais.
Mais quand on ne les fait pas, ben, on n'a pas ce peut-être de faire des résultats.
Et ouais.
Donc, ce chiffre d'affaires, après, ce n'est pas une certitude de faire du chiffre d'affaires.
Non,
hein,
non,
je l'ai expliqué auparavant. Hein,
non, mais quand tu sais que tu as marché, que potentiellement bah, tu peux continuer à marcher, bah, c'est sûr
exactement.
Que quand tu ne le fais pas, tu te dis bon, bah, je me prive de potentiellement un bon résultat.
Exactement, un projet, un résultat.
Mm-hmm.
Donc, écoute, moi, ça fait plusieurs années que je procède avec ce fonctionnement-là. Je trouve qu'il me correspond bien.
Mm-hmm.
Il y a des avantages et des inconvénients, comme on vient de se le raconter, mais... Voilà.
Moi, je trouve la démarche intéressante parce que moi, en tant que spectatrice, j'ai tendance à me dire...
Oui.
C'est... En fait, la redondance, je la sens.
Oui.
Je vois moins de renouvellement, malheureusement, mais parce que, bon, après, je baigne aussi dedans maintenant depuis un certain temps, donc forcément, je vois ce qui se fait, voilà. Mais en tant que spectatrice, je me dis, même si les salons ne se faisaient qu'un an sur deux, eh ben, ce serait pas mal, en fait. Parce que je me dis que peut-être, en fait, on aurait plus de demandes, que ça filtrerait et on aurait d'autres propositions peut-être, je ne parle pas de plus ou moins qualitatif, ça c'est vraiment c'est complètement suggestif mais peut-être que ça créerait un engouement autre parce qu'au final j'ai l'impression que des salons d'art il y en a à l'appel
beaucoup aujourd'hui oui
voilà. Et j'ai peur qu'on perde un peu finalement l'intérêt, l'intérêt des collectionneurs ou des amateurs qui, hors salon, bah, vont dans les galeries tout simplement. Quoi. Donc,
On en revient à parler des choix, encore une fois.
Ouais, ouais.
Malheureusement, il y en a certains qui vont attirer leur épingle du jeu en entité salon et d'autres, ben, vu la quantité de salons aujourd'hui qu'il y a, le public au début va les faire. Et puis petit à petit, ça va s'essouffler, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Où certains, il y aura une fréquentation beaucoup moins importante, etc.
Mm-hmm.
Donc, il faut faire attention au choix des salons. Mais ouais, moi, je suis complètement d'avis avec ce que tu racontes. On a le même regard là-dessus. Et puis, après,
C'est pour ça que tu choisis d'en faire que deux.
Oui.
Pour le coup.
Oui.
Tu fais pas d'autres salons ailleurs, genre sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Toi, moi, tu t'es focalisé que sur ces deux-là.
Ouais, celui-là de Montpellier, je le fais parce qu'on est chez nous et que je considère que nous devons accompagner aussi notre salon. C'est un très beau salon. Initialement, après. Bien évidemment, j'ai discuté avec le cœur de l'organisation et on s'est échangé de l'information. Moi, je ne suis pas de cette organisation, donc je n'ai pas à leur dire quoi que ce soit, mais je leur ai fait savoir, je leur ai fait remonter de l'information. Mais j'essaie de prioriser Paris. Paris, c'est un grand terrain de jeu. Donc, je fais Montpellier, bien évidemment. Je fais un an sur deux.
Paris, tu le fais tous les ans ?
Paris, je ne l'ai pas fait tous les ans. Oh. Mais je cible aussi un autre salon, okay. C'est Art Paris, c'est un peu plus technique pour pouvoir être...
Vraiment orienté art contemporain pour le coup.
C'est orienté art contemporain et c'est chouette, enfin moi il m'intéresse pour la simple raison que j'ai la sensation de m'attaquer à quelque chose d'un peu plus épais et qui va sûrement me faire rencontrer un autre public.
Ah bah complètement, enfin, on n'est pas sur le même public j'imagine que l'Urban Art Fair. D'ailleurs, ça m'amène à autre chose mais qui n'est pas sur du salon mais c'est pas grave. Les salons comme celui de Paris, est-ce qu'ils s'appellent déjà, c'est Urban Art Fair ?
Oui.
Donc on est vraiment sur de l'art urbain en fait dans le nom. Dans la proposition, on voit un peu de tout et finalement presque moins d'art urbain que ce qu'on pourrait attendre.
Oui, complètement. Hein,
c'est quand même carrément moins street art que ce qu'on pourrait penser. Ouais.
Ouais.
Et toi d'être dans cette case Urban Art Fair ça te convient par rapport à la proposition que tu apportes ?
Disons qu'il y a des points forts et des points faibles. Les points forts, c'est Paris, Carreau du Temple. Je m'entends particulièrement bien avec l'organisation. Donc, il y a une proximité, une complicité qui permet aussi une facilité de travail. L'année dernière, quand on l'a fait, je vais parler au nom du public. Pour certains, nous disaient « vous dénotez ».
Ah oui.
Avec la proposition Mathieu Lucas et je les comprenais, hein, Mathieu Lucas moi-même la première fois quand je travaillais avec lui je le considérais comme un artiste qui était dans sa case tout seul et c'est très contemporain ce qu'il fait tout en étant un brin figuratif même si j'ai un peu utilisé ce terme là bref voilà c'est une alchimie d'informations qui fait qu'artistiquement Mathieu Lucas il n'était pas vu comme un artiste street art et c'est vrai hein. Et puis moi je trouve que c'est un sujet assez délicat
un sujet qui m'intéresse beaucoup et d'ailleurs un des prochains sujets d'une émission là j'ai envie de parler du travail en atelier avec les artistes et de cette case aujourd'hui enfin les artistes qui sont résidents chez nous tu les connais. Moi, je ne les mettrais plus dans une case art urbain, mais je ne les mettrais pas encore dans une case art contemporain.
Non plus.
Et ma chère directrice et amie Kenny a vu le mot art actuel, qui en fait, je trouve, reflète très bien ce côté hybride où ils sont, c'est-à-dire que c'est la rue qui les a amenés à ce qu'ils font aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce n'est pas des street artistes, en fait. Enfin, ce serait trop les réduire dans une case de les appeler comme ça.
Ce que j'aime bien de ce qu'elle a dit, Kenny, c'est on n'utilise pas le mot contemporain, mais qui veut aussi expliquer actuel.
Ouais.
J'ai bien aimé
subtilité.
Ouais, exact, cette subtilité,
voilà.
Exactement.
Parce que contemporain, en fait, quand on te dit art contemporain, tu t'imagines quelque chose déjà.
Exact.
Tu vois quelque chose de très conceptuel, de pas trop accessible parfois,
exact.
Un peu élitiste aussi. Mm-hmm. Quand on te dit art urbain, tu vois donc street art, tu vois la rue, nani, nana. Mm. Et il y a un entre-deux
exact.
Où nous, on est dans cette brèche-là et qu'il n'y a pas de nom. Quoi. Alors, c'est pour ça qu'on dit art urbain contemporain, mais bon... Ça n'a pas trop de sens.
On est dedans, mais ce n'est pas vraiment ça.
Et toi, pour le coup, c'est pareil. Les artistes que tu représentes en galerie, ils sont, à mon sens en tout cas, dans cette...
Exactement. On joue entre deux variantes de l'art. Enfin, de toute façon, c'est des branches. On va parler de branches.
C'est des branches,
moi, c'est la grande famille contemporaine. Entre le street art et cet art actuel, que j'appelle moi art contemporain. Mmh. Et là, on se retrouve là, on est une espèce d'hybride là-dedans, où on a tendance à pencher vers l'art contemporain tout doucement, mais ça se construit, ça, Laura. Moi, je ne veux pas aller plus vite que la musique.
Non, bien sûr.
on a fait des émissions auparavant où on parlait de graffiti et du graffeur que j'ai été.
Tout à fait.
Et voilà, c'est chaque moment a son temps et c'est, je crois, pour ça que j'aime tant ma profession.
Oui, ce qui est marrant parce qu'au final, tu as le même parcours que les artistes que tu représentes au final.
Ouais. Ouais.
Je vais revenir sur le salon. Il y a un emplacement stratégique à avoir dans un salon.
Oui.
Il faut être au milieu.
Ouais, il y a des emplacements.
Un emplacement et même une scénographie parce que tu as la localisation dans le salon, mais il y a aussi la façon dont tu construis ton stand.
Merci pour cette question. C'est aussi technique, l'air de rien.
Oui.
Pour le public qui ne connaît pas, on ne débarque pas dans un salon sur un stand avec un design de stand prédéfini ou fait à la volée comme ça. Non, est réfléchi en amont, que ça soit le dessin du design du stand. En fait, ça part de là où on se situe dans le salon déjà. Il faut connaître les salons, il faut les fréquenter, il faut y déjà aller une fois, deux fois, trois fois pour comprendre le fonctionnement d'un salon. Après, il y a des organisations de salons qui changent assez régulièrement le positionnement des stands, je sais, pour amener une certaine fraîcheur, j'imagine. Mais en général, dans un lieu, on a régulièrement le même parcours d'art dans un salon. Donc, selon où on se situe dans le salon, selon si on est à droite ou à gauche, si on décide d'avoir l'ouverture à droite ou à gauche, on va dessiner un design de stand d'une certaine façon. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de venir avec un vrai projet, une scéno et un artiste, avec un vrai projet réfléchi en amont, ça, nous le prenons en considération. Moi, je me réunis avec les artistes ou l'artiste choisi pour définir de la scéno, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, comment ça va être vu. En fait, on prend tous les détails en considération.
Comme si tu faisais une expo dans ta galerie.
Exact.
En fait, vraiment, c'est pensé de la même façon, du début à la fin.
Ouais.
Voilà, tu sais quelles œuvres tu vas mettre, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu vas construire comme récit.
Ouais, c'est exactement ça.
Est-ce que au fil des années, depuis que tu fais ces salons, puisque du coup ça fait un certain temps, tu as observé, toi, un regain d'intérêt, un engouement un peu plus fort, ou au contraire, justement, quelque chose qui s'étiole et qui s'amenuise un petit peu, ou qu'est-ce que, en termes de public, j'entends.
En termes de public, déjà, la première chose que j'ai remarquée, et tant mieux, il a mûri.
Ok.
Et il s'est enrichi en éducation culturelle.
Mm-hmm.
Donc, on a un public qui est plus connaisseur.
Ok.
Donc, moins novice, forcément. Mm-hmm. Et qui passe assez vite le pas de s'acheter une œuvre à plusieurs milliers d'euros.
Okay.
Moi, quand j'ai commencé ma carrière à 20 ans, qu'on vendait une œuvre à 300 euros, c'était déjà super. Enfin, en tout cas, c'était tout nouveau. Nous, on arrivait avec des projets qui étaient très typés graffiti, voire street art.
Ouais, ouais.
Et c'était chouette, quoi.
Bah, les premières ventes,
plus,
quoi.
Aujourd'hui, on a un public avisé, on a un public de connaisseurs, pas tous, mais une partie en tout cas. Et en tout cas, le premier point que j'avais envie de soulever, c'est qu'il a, voilà, il a mûri, ce public a mûri. Après, il y a toujours une attractivité d'un certain public qui vient. C'est pour s'ils en ont entendu parler, ils savent pas, ils viennent. Les salons ont cette vertu aussi d'amener une activité différente de celle qu'ils ont l'habitude de faire.
Ouais.
Et je le sens, il y a certains jours durant la semaine de salon où on a des journées qui est plus balade.
Ouais, bien sûr.
Et celles-là, elles sont quand même relativement longues. Après, c'est chouette de pouvoir rencontrer ces gens-là aussi, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour bosser. Donc, les gens qui viennent, comme ils diraient, se faire une balade au zoo, c'est vulgarisé, ne m'en veux pas, mais voilà.
Non,
c'est
non, mais c'est mais normal, parce qu'à la fois, si tu peux y pénétrer, si tu te sens légitime d'y aller, de faire un tour, c'est toujours intéressant.
Ouais.
La matrice d'art que je suis, qui ne peut pas se payer une œuvre à des milliers d'euros, elle a quand même envie d'aller voir ce que ça donne, tu vois. Mais je comprends, alors après, ça dure une semaine, ça va ?
5 jours maintenant. Avant, c'était 4 et c'est passé à 5.
Ok.
Ouais.
Donc oui, forcément, t'as une journée où c'est...
Ouais, deux.
Donc le temps est un peu plus long. C'est bien,
non,
c'est bien.
Non, c'est bien, il en faut pour tout le monde. Et puis nous le savons de toute façon quand on décide de faire des salons. Nous savons que ça ne va pas être 5 jours de folie, de vente. Il y a des moments clés comme ça. Voilà, il y a des jours où c'est un peu plus balade et c'est chouette.
Ouais, c'est il en faut.
Il faut l'accepter, c'est comme ça.
Ouais, et puis tu sais pas ce que ça va donner après, parce que ça commence par venir voir un salon comme ça au hasard, et puis bah, peut-être que les années d'après, comme tu dis, ces personnes-là mûrissent aussi, et ça se transforme en des potentiels collectionneurs.
C'est juste quelques exemples comme ça.
Ah, tu vois, comme quoi.
C'est vrai.
Comment, alors pour, il nous reste quelques minutes, on parlait de comment tu imagines la proposition que tu vas amener dans un salon avec un artiste.
Ouais.
C'est un travail qui prend du temps au même titre qu'une exposition à la galerie.
Oui, et peut-être chez moi plus longtemps que chez les autres.
Est-ce que c'est le, parce que quand t'es dans ta galerie, bon, c'est chez toi, donc tu sais, tu connais tes murs, tu connais le parcours, etc. Donc voilà, là, chaque année au Carreau du Temple, bah, ton stand il change un petit peu, j'imagine.
Ouais.
Donc à chaque fois, tu recommences la mécanique en fait.
Exactement. Déjà, il y a la mécanique choix artiste.
Ouais, déjà.
Là où on décide d'aller pour Art Montpellier, à titre indicatif, je pense que la prochaine fois que je ferai un salon. J'y présenterai Arnaud de Jésus Consalves.
Oh oui!
Un des jeunes qui est rentré dans la galerie, qui n'est pas un jeune, qui est pas si jeune que ça, mais j'adore. Aussi. Donc voilà, je t'en parle là tout de suite, spontanément, parce que c'est quelque chose qui m'a pris du temps à réfléchir. C'est pour ça que je dis ça me prend peut-être plus de temps que d'autres.
Ouais, ouais.
Mais je prends toujours le temps de mûrir les trucs, des fois un peu trop. Mais je me suis rarement.
Pas planté,
mais en tout cas dire mince, oups, j'aurais vraiment pas dû.
Ouais.
C'est pour ça que je prends le temps de bien réfléchir à qui je prends et à qui je propose. Puis il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte.
Ouais, parce que j'étais en train de me dire en fait, t'as le planning aussi qui rentre un peu en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas proposer, enfin avoir fait un solo show avec Mathieu Lucas, puis lui présenter coup sur coup le salon, c'est compliqué. Enfin, puis il y a des artistes aussi qui peuvent produire vite.
Ouais.
Et d'autres comme Mathieu Lucas qui ne peuvent pas.
Chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça, Laura. Tu connais la politique de la maison et on prend toujours le temps nécessaire à réfléchir au planning et s'il faut attendre un an pour pouvoir mettre un salon en place. Moi, je pars du principe que il y a pas très longtemps, on m'a fait une proposition de salon que j'ai refusée, qui était une très belle proposition, mais que j'ai refusée pour la simple raison que j'ai ni la place pour le faire, ni le temps de le faire. Ouais. J'ai déjà mon planning annuel qui est déjà posé avec les artistes. Je peux pas partir avec un projet où je prends des stocks d'œuvres de ma galerie et je vais les accrocher. Ça m'intéresse pas de travailler comme ça. Enfin, je m'y retrouve pas. C'est pas que c'est pas à faire, mais moi je ne m'y retrouve pas.
Bah, c'est pas dans ta démarche.
Non, pas du tout.
Du moins de travailler comme ça.
J'ai dû refuser à contre-cœur parce que j'aurais bien voulu le faire, mais voilà, c'est comme ça. Par moments, on s'y confronte.
Du coup, tu prépares l'Art Fair de Paris ?
Je prépare.
Parce que c'est quoi ? C'est mai. C'est,
non, non c'est précisément Art Fair que je te parlais.
Ah ! D'accord.
J'ai refusé
parce
que ça rentrait pas dans mon planning et il y a d'autres paramètres qui ont fait que j'ai pas.
C'est censé être bientôt, c'est des beaux jours.
C'est avril là,
c'est
dans 5-6 semaines.
Il nous reste une minute, c'est quoi l'actu de la galerie?
C'est de ça que je voulais rebondir dans 5-6 semaines, puisque c'est le temps qui me reste pour finir de monter le projet. J'ai une expo exceptionnelle, inédite, et j'espère que le public sera au rendez-vous. En tout cas, moi je vais pousser au max pour qu'il soit là. C'est un duo André Mode 2.
Oh là 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 là.
Et ça sera exclusivement des œuvres faites à quatre mains.
Oh purée.
Et j'en dis pas plus parce que je sais ce qui est en train de se tramer.
On n'en dit pas plus parce qu'on arrive à la fin, mais belle annonce.
Merci.
Et on en reparlera.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup Nicolas Xavier pour ce troisième épisode encore intéressant. Merci Alice à la régie et merci à tous de continuer à m'écouter.
Merci.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffitis, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.